France Musique. Tour de chant, Martin Pennet.
Aujourd'hui, bon anniversaire Régine, première partie. Surnommée la Reine de la Nuit, Régine, qui vient de fêter ses 90 ans, a mené une double carrière d'animatrice de club et de chanteuse. Connue pour sa gouaille, en digne héritière des goualeuses des années 30, elle a su se constituer un répertoire remarquable, avec une galerie d'auteurs à faire pâlir de jalousie bien des interprètes. Conçue en Argentine par des parents juifs polonais, Régine Zilbelberg est née dans la banlieue de Bruxelles le 26 décembre 1929. Son parcours, qu'elle a souvent raconté, est celui d'une enfance ballottée entre la Belgique, Paris, le sud de la France durant l'occupation, où elle a vécu cachée pour échapper à la déportation, puis de nouveau à Paris, dans le quartier de Belleville, et diverses pensions. Ayant abandonné les études de bonne heure et quasiment livrée à elle-même, la jeune Régine a appris à se débrouiller et à se défendre, affirmant par là même un caractère hors du commun. Ayant hérité de son père joueur une âme de noctambule, elle a fini par abandonner ses petits boulots de jour pour travailler la nuit. Son attirance pour la danse et le monde du spectacle va prendre une place essentielle dans sa vie. Elle va ainsi connaître un destin peu banal et plein de péripéties, comme elle le chantera en 1971 dans ce refrain qui résume sa philosophie empreinte de culture juive. Régine commence par être barmaid au Whisky à Gogo, rouvert par Paul Passini, rue de Beaujolais, face au Palais Royal, en 1951. Un lieu qu'elle transforme deux ans plus tard en une sorte de discothèque, équipée d'un jeu de lumière coloré et d'une sono rudimentaire pour remplacer le jukebox. En s'improvisant disc-jockey, Régine vient d'inaugurer en France un nouveau concept dont le succès va dépasser toutes ses espérances. En 1954, elle anime un second Whisky à Gogo inauguré à Cannes. En 1956, elle ouvre son propre club chez Régine, à Saint-Germain-des-Prés, dans la rue du Four. Un emplacement stratégique qui attire bientôt le gratin du quartier et plus généralement de la capitale. Deux ans plus tard, Barclay publie un disque 45 tours intitulé « Apprenez à danser le cha-cha-cha et le merengue avec Régine ». Les amateurs peuvent l'entendre y commenter les pas à effectuer sur la musique des orchestres de Ben et des Cha-Cha Rhythm Boys. En mai 61, elle inaugure un autre club, chez Régine à Cannes, durant le festival pour attirer les stars. Danseuse infatigable à l'âme slave, Régine est tellement appréciée pour l'ambiance de ses boîtes que le magazine sonore d'actualité Sonorama lui offre en juin 61 un reportage sur les futurs succès à danser durant l'été. La même année, Régine émigre boulevard du Montparnasse pour ouvrir, à l'angle de la rue Léopold-Robert, le New Jimmy's, en référence à l'ancien cabaret de jazz, le Jimmy's, situé dans la rue Huygens voisine. La notoriété de son club est assurée par la clientèle mondaine de ses amis, au premier rang desquels on compte Françoise Sagan, Jean-Pierre Cassel, Sacha Distel, Charles Aznavour et bien d'autres. Au fil des mois, le New Jimmy's devient un lieu où l'on lance les modes. Ainsi, à l'automne 61, alors que le twist commence à faire rage auprès des adolescents grâce à Johnny Hallyday, les Chaussettes Noires ou Richard Anthony, pour ne citer qu'eux, Régine l'enseigne déjà au public huppé qui vient chez elle. Cela attire les micros de la radio qui effectue en janvier 62 ce reportage au New Jimmy's pour l'émission Rendez-vous à 5h.
Et vous, vous êtes vous-même ?
Eh bien moi je suis moi-même, je danse et je reçois les gens. J'ai donné des leçons de danse à Sophia Loren, je lui ai appris à danser le twist puisqu'il y a une séquence de twist.
Mais vos élèves sont-elles douées ici ?
Tout le monde est très doué, oui. Je dois dire que le twist s'apprend avec une facilité déconcertante.
Oui, est-il très difficile de n'être pas ridicule ?
Non, on n'est jamais ridicule avec le twist parce que tout est permis.
Ça, c'est le twist. Chez moi, mes clients ne dansent que ça. C'est très nouveau. Mais peut-être ne savez-vous pas encore le danser. Si vous voulez bien, je vais vous l'apprendre. Vous y êtes ? Le pied gauche devant le droit. La jambe gauche pliée. La droite raide. Puis inversée. Les genoux se rejoignant. Pendant 5 temps, le poids du corps sur la jambe droite. Le corps penché en arrière. Les 5 temps suivants, le poids du corps sur la jambe gauche. Le corps penché en avant. Puis, vous recommencez. Vous avez bien compris ? Eh bien, dansez sans moi maintenant.
Ce reportage publié dans Sonorama de novembre 1961 est un vrai document sur la notoriété acquise par Régine au début des années 60. Plusieurs disques de danse de l'année 62, enregistrés par différents orchestres, proposent même un morceau intitulé « Régine Twist ». La même année, elle joue son propre rôle dans le film « La Gamberge », dont le couple vedette est incarné par Jean-Pierre Cassel et Françoise d'Orléac, ainsi que dans le film « Le couteau dans la plaie » d'Anatole Litvak, avec Sophia Loren et Anthony Perkins. À cette époque, son cabaret de Cannes est le théâtre d'une rencontre importante avec René Lebas, interprète apprécié de la chanson réaliste et poétique durant les années 40 et 50. Face au changement de génération, cette dernière est sur le point d'arrêter de chanter, comme elle l'expliquera en 1996 à Christian Plume sur Radio Bleu.
Je sais que vous avez aidé Régine à...
Ah bah oui, mais non seulement je l'ai aidé, mais je me trouvais dans le Midi, je chantais encore à l'époque, j'étais avec une amie. Et nous allons dans un cabaret qu'elle tenait, il y avait d'autres amis qui étaient là, et on a sympathisé, et elle nous a invités à dire, elle avait une soirée, je ne sais quoi, enfin bon bref. Et je lui dis, écoute Régine, si un jour j'arrête de chanter, eh bien je te ferai chanter, pour la bonne cause, mais je te ferai chanter. Elle me dit, oh, tu crois ? Comme ça,
tiens.
Oh, tu crois ? Je lui dis oui, oui. Effectivement, en rentrant à Paris, je suis allé la voir 2-3 fois. Et puis, j'arrête de chanter. Et effectivement, je lui dis, voilà, si tu es d'accord, je veux bien te faire chanter. Ah, elle me dit, tu crois ? Alors, elle habitait, je ne sais plus où, je ne m'en rappelle plus, peu importe. Et nous avons loué un piano tout de suite. Je lui ai présenté Émile Stern, qui l'a auditionné, il a commencé à jouer. Je lui ai dit, faites-lui chanter tel qu'il est, il me plaît. Alors, Émile commence, je fais démarrer Régine, Émile s'arrête et il dit à Régine, mais pourquoi voulez-vous chanter ? Régine lui dit, mais c'est pas moi, c'est René qui veut. Ça a démarré comme ça.
Tel qu'il est, il me plaît, il me fait de l'effet et je l'aime. C'est un vrai gringalet, aussi laid qu'un basset, mais je l'aime. Il est bancal, du côté cérébral, mais ça m'est bien égal, s'il a l'air anormal. C'est complet, il est muet, ses quinquets sont en biais, c'est un fait, tel qu'il est, il me plaît.
Grand succès de la chanteuse réaliste Fréhel, composé par son accordéoniste Maurice Alexander, le tango humoristique tel qu'il est, créé en 1936, est donc en quelque sorte le baptême de Régine comme chanteuse face à la productrice Renée Lebas et au compositeur Émile Stern. Régine se souviendra au micro de mon confrère Benoît Dutertre sur France Musique de La Bonne Fée, disparue en décembre 2009, qui lui a ouvert une nouvelle voie.
Renée Lebas était une femme qui avait le don de trouver les chansons. Elle a trouvé de l'autre côté de la rue, elle a trouvé mon accordéoniste. Ouais. Et elle les a chantés, mais c'est Piaf qui se les a appropriés.
C'est ça.
Mais c'est une femme qui a été au départ, dans ma carrière, la femme qui ma directrice artistique avec Émile Cern et Eddy Marnay. Donc j'étais très bien entourée. Et c'est une femme qui avait un grand don pour trouver les chansons. Ouais. Et elle était elle-même une très très bonne chanteuse.
Des murs qui se lézardent, un escalier étroit, une pauvre mansarde, et me voilà chez moi. Un lit qui se gondole, une table de guingois, une lampe à pétrole, et me voilà chez moi. Mais le soir quand le cafard me pénètre et que mon cœur est par trop malheureux, j'écarte les rideaux de ma fenêtre et j'écarquille les yeux. De l'autre côté de la rue, il y a une fille, une belle fille, qui a tout ce qu'il lui faut et même le superflu. De l'autre côté de la rue, elle a de l'argent, une maison, des voitures, des draps en soie, des bijoux, des fourrures. De l'autre côté de la rue, y a une fille, une belle fille. Si j'en avais le quart, je n'en demanderais pas plus. De l'autre côté de la rue.
La voix que nous venons d'entendre est celle de Renée Lebas dans un enregistrement réalisé à Genève en 1942 d'un succès écrit et composé par Michel Aimer qu'elle a créé au début de l'occupation dans les cabarets de Nice avant qu'Édith Piaf ne s'en empare à la Libération. Ayant finalement elle-même cessé de chanter, Renée Lebas prend donc en main la carrière de Régine comme chanteuse à partir de 1964. Cela commence par des cours de chant et des vocalises pendant 3 mois, puis on lui apporte des chansons qu'elle enregistre à l'automne. En février 65, 4 mois à peine après la sortie de son premier disque, Régine a l'honneur d'être reçue dans l'émission vedette de Denise Glaser, Discorama, sur l'unique chaîne de télévision d'alors.
En ce qui concerne la chanson, vous avez eu, je pense, beaucoup de chance d'avoir des parrains célèbres au départ. C'est-à-dire, aujourd'hui en particulier, Henri Salvador et Charles Aznavour.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance, je le reconnais, puis j'ai été très étonnée aussi au départ qu'ils acceptent de faire des chansons pour moi. Ça m'a un petit peu inquiété. J'ai dit, c'est pas du tout bon ce que je fais. Enfin, je m'écoutais sur les bandes de travail, enfin, tout à fait au début quand même. Et j'étais un peu étonnée. J'ai dit, est-ce que c'est justement parce que je crois que ça m'inquiétait un peu. J'avais pas très confiance en moi. Puis quand même, après, je me suis dit, non, pas de temps à perdre. Je leur ai posé la question, très franchement d'ailleurs. Et voilà.
Vous avez travaillé avec Aznavour assez régulièrement, je crois.
J'ai travaillé avec Aznavour dans une période où il était, lui, en vacances. Puis il a pris 6 mois de vacances. Et il m'a fait travailler parce que je danse beaucoup, je vous l'ai dit, et je devance le rythme. Et pour chanter, je dois prendre du recul. Et pour moi, au départ, ça a été très très difficile parce que c'était toute une méthode à l'envers. Et vraiment, je précipitais tellement le rythme, j'allais tellement vite quand je chantais, c'était épouvantable. Et c'est vraiment la chose qui m'a été le plus difficile.
Vous pensez que dans la danse, le rythme doit être devancé de quelques secondes?
Oui, c'est pour ça qu'on vous dit que quelqu'un est meilleur, quelqu'un danse bien, c'est parce qu'il a le rythme dans le sang, évidemment, oui. Il bouge plus vite.
Oui. Il prévoit.
Demi-seconde, il prévoit ce qui va arriver. Oui. C'est inconscient, enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est comme ça.
Vous pensez que c'est la chose essentielle qu'il vous ait apprise?
En tout cas, c'est la chose la plus grande. Et puis, enfin, il m'a quand même donné confiance en moi, ce qui était très important, parce que je n'étais pas très confiante dans mes... Non, moi, évidemment, quand c'est un nouveau métier, c'est difficile.
Dans votre pelisse en truc-muche, vous aviez l'air d'un ours en pluche. Je vous ai baptisé comme une cruche. Nounours, vous vous disiez aristocrate. Moi, dans le balai, je faisais la chatte. Aussitôt, vous me reluquâtes.
nounours. À la sortie, vous m'attendîtes. Le lendemain, à Maison Lafitte, gentiment, vous me conduisîtes. Aux courses, j'étais pas le genre cocotte minute. Pourtant, le soir, ce fut la chute. Car dès ce jour-là, vous me plus. Nounours.
Nounours est signé Jacques Mareuil et Charles Aznavour. Les orchestrations de ce premier disque ont été confiées au talentueux Alain Goraguer, qui restera fidèle à Régine durant plusieurs années. Le lancement officiel du 45 tours a lieu le 27 novembre 1964 au Bal de la Marine, quai de Grenelle, en présence de 1200 invités, et cet événement très parisien a droit à un reportage de la Radio Nationale réalisé par Sophie Dumoulin.
Et je voudrais que nous leur disions, Régine, pourquoi nous sommes réunis ce soir, ce matin presque, au Bal de la Marine.
Eh bien, nous sommes réunis grâce à la Maison Bel Air, à René Lebas, à Charles Aznavour, un petit peu à moi.
Surtout à vous, parce que vous venez de faire un disque, comme on dit, un super 45 tours. Vous chantez après avoir dansé, contrairement à la fable de La Fontaine. Régine, maintenant, vous chantez. Donc, pour célébrer la sortie de ce premier disque de Régine, vous avez réuni tous vos amis parisiens, et Dieu sait que Paris est grand et comporte des amis venus du monde entier autour de vous. Et Régine, je voudrais que vous me disiez comment vous êtes venue de la danse, du cabaret, de ce métier que vous faites, d'animer des cabarets, des boîtes de nuit, à la chanson.
Eh bien, écoutez, on me pose beaucoup cette question en ce moment, mais je vais vous répondre encore une fois.
Elle est naturelle.
Elle est tout à fait naturelle. J'y suis venue d'abord sur les instances de René. Moi, je ne voulais pas tellement parce que j'ai un métier très dur et qui me fait coucher très tard. Donc, pour la voix, c'est pas tellement bon. Et j'ai commencé à apprendre pour m'amuser. Ça me distrayait, ça me faisait du bien. Et puis, petit à petit, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis mise à travailler très sérieusement car je crois que je ne suis pas capable de faire les choses à moitié.
Et alors, je crois que dans ce travail, Charles Aznavour a été pour vous un bon encouragement.
Il vous a aidé. Ah oui, il m'a donné vraiment le coup d'envoi. Parce que pour moi, le fait qu'il s'intéresse à moi, qu'il me fasse ses chansons, qu'il consacre de son temps, il est très très pris, m'a vraiment très très encouragé.
Et alors, lorsque vous avez su chanter, est-ce que vous avez choisi vos auteurs ou bien sont-ils venus à vous?
Non, je les ai choisis.
Et pourquoi les avez-vous choisis?
Mais je les ai choisis parce que leurs chansons me convenaient. Je pense qu'elles convenaient à mon caractère et à ma façon de chanter. C'est instinctif.
Oublie-moi un peu, oublie-moi. Laisse-moi un peu, laisse-moi respirer un peu et m'amuser beaucoup au lieu de me suivre un peu partout. Oublie-moi un peu, oublie-moi. Pour une fois, tu peux bien faire ça. Loin de toi, je peux rire aux éclats, mon vieux, sans que tu croies que je me fous de toi. Va au bois un peu, et puis perds-toi, bon Dieu, et surtout ne reviens pas, oublie-moi.
Oublie-la, oublie-la, laisse-la, laisse-la, respirer un peu, et s'amuser beaucoup, au lieu de la suivre un peu partout.
Oublie-moi.
Oublie-moi, signé Bernard Michel et Henri Salvador, figure également sur ce premier disque 45 tours de Régine, qui est publié chez Bel Air, le label dirigé par Nicole Barclay, l'épouse d'Eddie, avec au verso de nombreuses dédicaces imprimées de vedettes lui souhaitant bonne chance dans la chanson. Tour à tour réaliste, mélancolique ou ironique, l'éclectisme de Régine lui vaut d'être qualifié par la presse de chanteuse sophistiquée. Trois mois plus tard, le 27 janvier 1965, elle tente une première prestation en public lors d'un gala de bienfaisance organisé au célèbre restaurant Maxim's, rue Royale, et parrainé par le grand fantaisiste Maurice Chevalier. Mais elle attendra encore d'avoir enregistré d'autres chansons avant d'aborder réellement la scène. Après son galop d'essai chez Bel Air, Régine entre début 65 chez Pathé Marconi, qui ne tardera guère à lui faire enregistrer son deuxième disque 45 tours. Cette galette résulte notamment d'une nouvelle collaboration avec l'auteur-compositeur Serge Gainsbourg. Fort de ses récents succès, écrits en particulier pour Juliette Gréco, Brigitte Bardot ou la jeune France Gall, il est sollicité par Régine, qui le racontera à Jean-Louis Foulquier dans Pollen sur France Inter en 1989.
Serge Gainsbourg, moi, quand j'étais barmaid au Whisky à Gogo, alors je traversais, j'allais le voir à Miller Larsouille, où il passait, il y avait Jean-Yann qui passait, il y avait Michel Arnaud, puis il y avait un type, là. Étrange, Et je trouvais un talent fou. Je disais à quelle heure il passe et je traversais la rue pour aller l'écouter. Alors, il venait boire un coup de temps en temps au Whisky à Gogo. Et quand j'ai commencé à chanter, évidemment, je l'ai appelé et je lui ai dit que je voulais qu'il me fasse des chansons. Et il m'a fait donc Je te prête Charlie. Et après, il m'a dit j'ai fait un autre petit truc, mais je ne sais pas si c'est bien. Oh. Puis il m'a sorti les petits papiers. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre collaboration musicale ensemble. Et ce qui est formidable, c'est qu'il ne fait pas des chansons comme ça. Il vient vraiment au studio et il est votre directeur artistique. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, ses chansons, c'est ses enfants, et il le suit vraiment d'une façon formidable. Et toutes les chansons que j'ai enregistrées ont toujours été conduites par lui-même.
Les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon, puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer un peu d'amour, papier velours. Et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré. Celui qui touche, papier tu mouches, et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier monnaie, où l'on en meurt, papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion, papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler, laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer.
Ce petit bijou d'écriture, serti de rimes riches et arrangé sur l'enregistrement de 1965 par Alain Goraguer en piano punaise, n'était au départ pas très apprécié par les directeurs artistiques de Régine, Eddie Marnay et Émile Stern. Il est pourtant devenu un standard de la chanson française, dont la genèse est à nouveau explorée par Hélène Azéra sur France Culture en 2015.
Il m'a dit, écoute vraiment, je sais pas vraiment ce que j'ai écrit. Je ne sais pas si c'est une vraie chanson, mais les mots comme ça me plaisaient. Et il m'a avoué après qu'il adorait la chanson de Fréhel, et Fréhel, c'était mon idole moi aussi. Alors là, on était complètement en osmose totale, parce qu'elle avait une chanson qui s'appelait « Les petits pavés ».
Loin de et ça lui... tendre sous ta fenêtre,
voilà, exactement.
J'ai lancé deux petits pavés.
Oui, et ça, c'est ça qui l'avait inspiré.
Oui.
Je vois pas le rapport dans les paroles, mais
les
franchement...
Les petits pavés, les petits papiers.
Oui. dès qu'il a joué, au bout de une minute, je savais que c'était quelque chose qui compterait dans ma vie.
Mm-hmm.
Voilà.
Le public l'a accepté tout de suite, la chanson?
Ah oui, ils ont adoré cette chanson tout de suite. Tout de suite. Et vous savez, cette chanson est maintenant dans le domaine du répertoire de la chanson française, et les enfants l'apprennent en CM2. Donc, dans la rue, j'ai des accompagnateurs, là, des gamins et des gamines qui me chantent les petits papiers. Et je chante avec eux. Vous savez, c'est des chansons
c'est à destin. C'est quoi pour vous? C'est une chanson sur la nostalgie, sur le bon et le mauvais usage de la nostalgie?
C'est les deux.
Que c'est bien la nostalgie, mais il ne faut pas qu'elle vous bouffe.
C'est ce que ça provoque chez moi aussi, mais il ne faut pas qu'elle vous bouffe, voilà. C'est exactement ça.
Ne cherchant pas à tout prix à faire des tubes, Régine choisit ses chansons pour leur qualité et n'hésite pas à solliciter ses amis écrivains comme Françoise Dorin. Cette dernière a déjà signé les paroles de « Que c'est triste Venise » pour Charles Aznavour et offre à Régine une autre déclinaison du registre amoureux, mise en musique cette fois par Francis Lay. « Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ?» figure au programme de la première prestation publique de Régine à la radio lors d'un disco-parade enregistré dans la vaste salle de l'Alhambra, rue de Malte, à Paris, en janvier 1966 et présentée par Jean Fontaine.
Elle est une des plus grandes amuseuses de Paris. Peu d'entre vous la connaissent, mais tous connaissent son nom. Elle fait ce soir ses débuts sur la scène de l'Alhambra. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'elle est très émue, qu'elle a un petit peu le trac, mais elle a l'habitude de gagner les batailles qu'elle livre. Je la connais bien depuis de longues années, c'est une très bonne amie. Alors j'ai le grand plaisir de vous annoncer pour la première fois à Disco Parade et sur la scène de l'Alhambra, Régine.
Tour de chant, Martin Pennet, France Musique.
Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de vos roses et de vos orchidées ? De vos grandes fleurs qui prennent trop de place, de vos plantes rares en rupanées. Je préfère le muguet ou bien les violettes, les brassées de bleuets avec des pâquerettes. Alors comprenez que tous vos bouquets qui coûtent un prix fou, je m'en fous. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse de vos restaurants réputés, de vos parchics, de vos palaces et de tous vos salons d'été? Je préfère les bistrots où ne va pas l'élite, les petits caboulots qui sentent bon la frite. Alors comprenez que tous vos troquets qui coûtent un prix fou, je m'en fous.
Cette chanson figure sur le troisième 45 tours EP de Régine, sorti en 1965. On y trouve aussi une nouvelle chanson de Serge Gainsbourg, « Si t'attends que les diamants sautent au cou », et une de Serge Lama, « Ça ne sert à rien », évoquant les rencontres amoureuses d'un soir. Il s'agit à vrai dire de la troisième signée par ce dernier pour Régine, après « Dès que je danse » et « Aimez-vous les pommes », qui figurait déjà sur son deuxième disque. Là encore, on peut parler d'une rencontre importante dont Lama se souviendra en 1993 pour un feuilleton des ateliers de création radiophonique diffusée sur le réseau France Bleu.
Renée Lebas, chanteuse réaliste de grande, mais réaliste de classe, je dirais. Et puis elle avait envie d'être productrice, de changer, de se recycler, comme on dirait aujourd'hui, d'en faire autre chose, quoi. Et elle me propose de, écoutez, je trouve que vous avez beaucoup de talent, ça m'intéresse, et j'aimerais bien faire un contrat, faire un disque avec vous. Mais la première chose qu'elle fait, elle me dit, je voudrais vous, parce que pour vous c'est intéressant, je m'occupe aussi d'une fille qui est une, qui tient des boîtes de nuit, qui est une grande star de la nuit. Moi je la connaissais pas du tout à l'époque, parce que c'était un milieu très huppé que je fréquentais pas. Il s'agissait de Régine, et elle me dit, j'aimerais bien vous la présenter, parce que on cherche des chansons pour elle, parce qu'on voudrait, moi je trouve qu'elle a une voix de goualeuse. Elle me dit, elle pourrait faire une carrière formidable, et je voudrais trouver des auteurs pour lui écrire des chansons. Et pour vous, c'est une façon aussi de pénétrer le milieu de en tant qu'auteur. Elle me dit, puisque vous êtes d'abord un auteur, vous êtes un chanteur, vous êtes aussi un auteur. Et elle m'amène un soir chez Régine. Et puis un jour, Régine m'a pris à part, elle m'a trouvé sympathique, certainement, en deux ou trois soirs. Et elle m'a dit, écoute, c'est pas compliqué, pour travailler pour les gens, faut les connaître. Alors elle m'a dit, tu veux me connaître, et puis il faut que tu connaisses tout de ce métier. Moi, t'as le whisky à gogo, si j'ose dire, t'es là, t'es le whisky que tu veux tous les soirs, tu observes, tu regardes comment je fais, tu regardes comment je vis, tu regardes comment entre machin. Mais j'avais accès à tout, attention, hein. J'avais pas accès que qu'au bar. Elle me faisait monter à la maison chez elle, des fois je passais, je regardais la télé, enfin, j'étais vraiment chez moi, quoi. Et je sortais de l'écluse, c'est comme un travail. Comme le mec va prendre des cours du soir, j'ai vu des mecs quand j'étais en Angleterre qui travaillaient la journée dans une brasserie et le soir, ils allaient prendre des cours pour se peaufiner leur anglais. Et ben moi, je sortais de l'écluse à 11h, je changeais d'habit, je regardais le soir souvent Barbara et vers minuit, quand tout était fini, chez Régine, et là c'était jusqu'à 5h du matin, 6h du matin, et effectivement, j'observais, je voyais toutes les gloires qui défilaient là, sur là. J'ai découvert un autre monde.
Dès que je danse, j'ai le cœur amoureux. Dès que je danse, c'est merveilleux. Qu'elle vienne de Cuba ou de Paris, qu'elles viennent de là-bas ou bien d'ici. Je danse les Java de n'importe où. On dit du mal de moi, mais je m'en fous, car lorsque je danse, lorsque je danse, lorsque je danse, j'ai le cœur amoureux. Lorsque je danse, lorsque je danse, lorsque je danse, c'est merveilleux.
Le disque suivant de Régine, son quatrième 45 tours EP, sorti en 1966, sera un véritable joyau, avec encore du Gainsbourg dans le registre burlesque, Pourquoi un pyjama, et surtout une chanson signée par Frédéric Botton intitulée La Grande Zoa. Cette perle scintillera durant des décennies dans le répertoire de Régine, dont nous continuerons à célébrer l'anniversaire dans la prochaine émission. Je remercie Dorothée Goll à la préparation, Claire Levasseur à la technique, Massimo Bellini à la réalisation, Marine Decamp pour les archives de l'INA, Romain Couturier à la discothèque centrale de Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.